Il me revient donc de relancer notre réflexion sur le pouvoir. Charles Mennemann l'a introduite et engagée la dernière fois. Notre discussion, nos premiers échanges, ont fait ressortir trois questions. Trois questions qui représentent au fond notre plan de bataille. Nous allons les retrouver sans cesse sous un angle ou sous un autre. Aussi n'est-il pas inutile de les énoncer aussi nettement que possible pour bien délimiter le cadre théorique à l'intérieur duquel nous allons évoluer. Première question. Vous êtes tout à fait fondé à vous la poser. En quoi la question du pouvoir concerne-t-elle la psychanalyse? En fait, cette question est une affirmation, et une affirmation polémique. La question du pouvoir concerne au plus haut point la psychanalyse. Mais les psychanalystes sont loin d'en être convaincus en général. Il serait même fort tenté de l'ignorer. En cela, ils ont tort. C'est ce que nous allons essayer d'établir au fil de ces discussions. Deuxième question, de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous quand nous parlons de pouvoir? Nous sommes là devant le type même de la fausse évidence. Le pouvoir, mais bien sûr, nous savons tous ce que c'est. Nous le localisons sans peine. Nous le situons tous les jours à divers usages. Et puis, il suffit d'y réfléchir un peu pour s'apercevoir qu'il n'y a pas d'objet plus évanescent, plus insaisissable, plus bizarre, plus scandaleux pour l'esprit. En fait, nous vivons au quotidien avec le pouvoir. Il nous hante et nous ne comprenons pas ce que c'est. Troisième question, où en sommes-nous? Question cruciale, car cet objet bouge. Il bouge même grandement, à tel point qu'il me semble que nous sommes devant une configuration historique entièrement inédite. Depuis deux siècles, depuis la Révolution française, si l'on veut un repère commode, notre problème de citoyen était de dompter le pouvoir, de le mettre au service de la collectivité. Entreprise difficile, car la bête, on a eu l'occasion de s'en apercevoir, est redoutable. Et si nous en avions douté, l'histoire du dernier siècle, ravagée par la folie du pouvoir, nous l'a surabondamment prouvé. Mais ne nous trompons pas de combat. N'en restons pas à la guerre d'avant. Car ce qui nous menace à l'orée du XXIe siècle, ce n'est pas le pouvoir total, c'est l'impouvoir radical. Nous sommes en train de perdre le pouvoir. Entendons, le pouvoir est en train de se perdre, de se dissoudre, de se détruire. Et c'est une épreuve qui ne s'annonce pas moins redoutable dans un tout autre genre que celle des totalitarismes du siècle dernier. C'est ce qui donne son sens dans mon esprit à l'intitulé que Charles Mellement a choisi pour nos échanges. Quel pouvoir voulons-nous ? Car il nous faut aujourd'hui vouloir un pouvoir. Nous en avons besoin, mais pas n'importe lequel, bien entendu. Toute la question est là. En principe, dans le tandem improbable que nous formons, ce sont ces deux dernières questions qui seraient plutôt de mon ressort. Eh bien, cependant, je vais, une fois de plus, me mêler de ce qui ne me regarde pas, en m'attaquant à la première. Pourquoi la question du pouvoir concerne-t-elle la psychanalyse ? Je voudrais vous soumettre, à titre d'hypothèse, car la question est en friche et difficile à aborder, un certain nombre de propositions qui sont faites pour la discussion. Et pour en amateur, je n'ai aucune prétention et je ne veux pas dire aux psychanalystes ce qu'ils doivent penser, mais il me semble, vous comprendrez pourquoi dans le mouvement même de mon propos, qu'il y a lieu peut-être d'être un peu provocateur sur ce terrain pour débloquer de vieilles hypothèques qui s'obstinent à empêcher la réflexion. Et afin de faire sentir d'emblée la portée de la question, pourquoi la question du pouvoir concerne-t-elle la psychanalyse ? J'avancerai tout de suite deux thèses en guise de réponse que je m'efforcerai d'étayer par la suite, au moins dans une certaine mesure. La question du pouvoir concerne la psychanalyse, premièrement parce qu'il y a inscription psychique du pouvoir. Et elle la concerne en second lieu parce que le rapport au pouvoir est impliqué dans les divisions constitutives de l'identité subjective et du désir. Mais plutôt que de développer frontalement et dogmatiquement ces thèses, je voudrais formuler, dans un premier temps, quelques observations de nature à permettre de mieux les aborder. La première de ces observations concerne le caractère polémique de la question que j'évoquais en commençant. Nous touchons ici à ce qui me paraît être un point aveugle de la théorie psychanalytique, en tout cas dans ses versions dominantes. Un préjugé fort qui lui vient de la société dans laquelle elle naît et devient possible, de la société dans laquelle elle est plongée. Et un préjugé, faut-il ajouter, que la pratique psychanalytique entretient spontanément. Au quotidien, la pratique psychanalytique a affaire à des individus privés qui lui parlent de leurs difficultés personnelles, subjectives, intimes, de leurs troubles les plus inexprimables dans la vie collective. La partie la plus secrète de la vie personnelle des individus à distance du regard social. On l'a beaucoup dit, en effet, l'espace analytique est un espace extraterritorial par rapport à la société. Mais jusqu'à quel point ? On comprend en tout cas la tentation de la théorie psychanalytique sur cette base qui lui fournit son évidence palpable de tous les jours, la tentation de ne regarder le sujet psychique qu'entre lui et lui-même, si je puis dire. Isolément, abstraction faite de la société qui l'entoure. Avec l'idée, dans ce prolongement tacite, rarement exprimée, mais très prégnante, que le plus important, psychiquement, c'est ce qui se joue dans cette sphère subjective, distincte ou séparée. Le jeu social n'est au fond qu'une superstructure seconde et superficielle. Par où la pensée psychanalytique, je pourrais en prendre des exemples à foison, est éminemment vulnérable à l'illusion individualiste. Illusion par excellence de nos sociétés. Une illusion profondément enracinée et une illusion qui a pris au cours des 3 ou 4 dernières décennies des proportions sans précédent, au point d'occulter tout le reste. L'illusion que l'individu existe antérieurement et séparément de la société. Celle-ci n'étant formée que dans un second temps par ces individus subsistant d'abord par eux-mêmes, mais qui, bien sûr, ont des échanges, des transactions, des relations avec les autres sujets avec lesquels la vie sociale émet en rapport, en commençant par les interactions précoces qui se jouent dans le cercle familial. Il faut accorder à Lacan d'avoir fait un premier pas pour sortir du cercle de cette illusion en recentrant la théorie psychanalytique sur la parole et le langage. La parole, c'est-à-dire l'échange. Le langage, c'est-à-dire la préexistence radicale des moyens de la signification sur le sujet psychique. Il n'y a de sujet humain que parce qu'il y a langage. C'est ce qui le spécifie, et le langage, c'est le fait social primordial. Parler, c'est appartenir. C'est s'approprier quelque chose qui vous préexiste et vous enveloppe. Parler, c'est s'inscrire dans une communauté, au moins linguistique, de ceux qui peuvent vous comprendre. C'est entrer dans un ordre contraignant qui vous précède et vous domine, quand bien même il vous permet de vous constituer comme un sujet doté d'un propre qui a le pouvoir, je souligne le mot, d'énoncer une parole singulière, éventuellement dissonante par rapport à la voix dominante de la collectivité où l'on est tombé. Une parole indépendante, dans tous les cas, qui n'est qu'à vous. À tel point qu'elle est empreinte de ses significations et de ses signifiants irréductiblement individuels qui sont l'objet spécifique de la pratique psychanalytique. La psychanalyse commence là où une parole est inintelligible pour quiconque d'autre que celui qui la tient, mais inintelligible aussi pour celui qui la tient. D'où la démarche d'élucidation qui s'engage à partir de là. Nous le savons bien, fort souvent, le plus souvent même, au-delà de la parole individuelle, c'est la société qui parle par la voix de ses agents. Il y a eu de bons écrivains pour le donner à sentir. En fait, de parole personnelle, on a une sorte de disque social qui, dans diverses variantes, parle par la bouche de gens qui croient dire quelque chose, mais qui n'est pas d'eux. C'est dans cette perspective de l'appartenance radicale sur laquelle le fait du langage nous met en présence, c'est dans cette perspective qu'il est possible de donner tout son sens, toute sa portée, à la formule de Lacan que me rappelait récemment Charles Mellman, l'inconscient, c'est le social. Je préciserai encore la formule en ajoutant le symbolique, c'est le social. Une formule qui nous sera utile plus tard. Formule qui n'est en un sens que le prolongement de l'observation sur le caractère social du langage, mais un prolongement qui emporte avec lui de très grandes conséquences. Eh bien, je crois qu'il est permis de soutenir qu'au fond, du fond de cet inconscient, on trouve le pouvoir et le rapport au pouvoir. C'est ici qu'il faut faire un second pas pour échapper à l'illusion de la monade psychique, à l'illusion individualiste de la clôture et de la subsistance du sujet humain par lui-même. Nous trouvons ce rapport au pouvoir parce que la constitution du sujet psychique passe par l'appartenance et l'inscription psychique de cette appartenance à une collectivité. Et parce que le pouvoir est constitutif du social. On peut le dire très simplement. Il y a pouvoir parce que nous vivons dans des communautés qui ont pouvoir sur elles-mêmes. C'est la spécificité radicale des communautés humaines. N'en déplaise à nos sympathiques amis des chimpanzés et autres bonobos qui nous expliquent que ces bandes de grands singes font déjà de la politique et au fond, à bien y regarder, pas si différente que la nôtre. Copé-Fillon ou la lutte de deux mâles dominants pour le contrôle des femelles, en fin de compte, c'est à peu près pareil. Quelques nuances évolutives, naturellement. Et non, désolé. Ce serait très simple si c'était vrai. Nous ne serions pas là pour en discuter. Il y a, oui, sûrement, il y a des rapports de force plus ou moins stabilisés au sein de ces bandes de singes. Malin, par ailleurs, c'est pas douteux. Mais ces bandes de singes ne se définissent pas elles-mêmes, elles ne se donnent pas de nom, elles ne disent pas pourquoi elles sont comme elles sont, elles ne sont pas être comme des communautés politiques ayant pouvoir sur elles-mêmes en tant que communauté qui énonce un corps de règles auquel elles doivent se conformer. Les communautés humaines ont pouvoir sur elles-mêmes en ceci que toutes, pour autant qu'on les connaisse, elles définissent leur organisation, elles l'énoncent, elles définissent leur fonctionnement selon des règles. Elles se plient de leur propre mouvement à une loi commune qu'il s'agit ensuite de faire respecter. L'anomalie, l'énigme, est que ce pouvoir consubstantiel à l'existence en société se présente toujours, d'une manière ou d'une autre, comme séparé, comme identifié à un, à part des autres. Qui commence? Voilà le point scandaleux du pouvoir qu'il s'agit de comprendre. Avant de poursuivre cette exploration, au sens plein du mot, sur un terrain théorique, est très théorique, je voudrais à ce stade évoquer quelques expériences et observations familières de nature à rendre sensible la façon dont cette dimension du pouvoir travaille en permanence les psychismes individuels, retentit en eux, en entretenant d'étroits rapports avec des pathologies, quelquefois très caractérisées. La première de ces expériences révélatrices, sur lesquelles, à mon sens, on ne s'est pas suffisamment interrogé, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, c'est la folie du pouvoir. La sagesse populaire l'a de longtemps identifié, le pouvoir rend fou. C'est vrai, c'est une expérience que nous avons tous eu l'occasion de constater. Cette folie a des formes bénignes. Qui de nous n'a eu l'occasion de rencontrer ce phénomène très étrange quand on y pense, qu'est le déséquilibre soudain qui peut saisir à grande vitesse une personne, à première vue, très banale, lorsque le hasard la désigne pour l'exercice d'une fonction de direction ou de commandement, même très modeste. Comme le disait d'une formule, je n'en connais pas de meilleure, de mon ami François Furet, à propos d'un de nos communs collègues que nous avions vu dévisser en direct, de façon incompréhensible, pour vraiment, a priori, des fonctions très restreintes. La gouaille parigote de Furet avait cette formule qui m'est restée dans l'esprit. Il prend sa cabane de garde-barrière pour la Maison Blanche. C'est tout à fait ça. Nous l'avons tous vu. Et voilà que ce personnage jusque-là débonnaire, facile, se métamorphose en dictateur potentiel virtuellement sanguinaire, s'il en avait les moyens, et un dictateur qu'il ne faut pas moins, en général, qu'une micro-révolution de palais pour remettre à la raison. Et d'ailleurs, en général, ils reviennent à la raison. Après, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce genre de psychopathologie de la vie quotidienne, hein, la psychopathologie autoritaire, fourmille, pullule dans nos sociétés. Ça, c'est devenu d'ailleurs aujourd'hui, parce que ça implique des coûts sociaux, même les actionnaires s'en sont aperçus, et dans les écoles de management, c'est devenu un sujet. Attention, quand vous désignez quelqu'un pour une fonction d'autorité, assurez-vous de sa santé mentale. Il y a des profils, enfin. C'est un sujet pour les directeurs des relations humaines aujourd'hui. Mais pourquoi s'interroge-t-on pas davantage sur le sens de ce phénomène ? J'ai trouvé cette formule, que je traduis en substance, c'est dans un anglais très idiomatique, mais ça m'a frappé. Le vrai problème de la sélection des dirigeants aujourd'hui, c'est de trouver des gens capables de rester à peu près normaux à l'épreuve de l'exercice d'une fonction de direction. Et puis bien sûr, il y a les formes dramatiques de folie du pouvoir. Notre dernier siècle en a offert assez le spectacle pour qu'il ne nous soit pas possible de l'oublier. On n'a pas besoin de remonter aux empereurs romains, exemple d'ailleurs qu'on trouvait, pour en trouver des exemples. Le principal mystère, en l'occurrence, étant, bien sûr, la capacité des masses de se laisser entraîner dans cette folie d'un individu. Je me permets au passage de vous renvoyer, si vous ne l'avez lu, à l'un des rares livres qui ont essayé d'approcher le phénomène dans son épaisseur, en connectant d'ailleurs expressément paranoïa et pouvoir, le livre d'Elias Canetti qui s'appelle « Masse et puissance », que nous gagnerions d'ailleurs éventuellement à examiner de plus près. D'ailleurs, quelques-uns d'entre vous se souviennent sûrement du document extraordinaire qu'était le film de Barbette Schroeder sur ce pittoresque et tragique président de l'Ouganda il y a quelques décennies, Idi Amin Dada. C'est un document politique et psychanalytique et psychiatrique de première grandeur. Parce que c'est un mélange indéchiffrable, d'ailleurs, de familiarité et d'horreur absolue qui déconcerte complètement. Immense sujet dont vous observerez qu'il est quasiment vierge. Il n'a pas été pris au sérieux théoriquement. Ce qu'il faut bien voir encore une fois, c'est que les formes exceptionnelles du phénomène sur lesquelles l'attention se concentre très normalement sont en lien avec les expressions les plus banales, les plus ordinaires du phénomène. C'est un phénomène endémique dans l'espèce humaine qui demande à être considéré dans ce qu'il est susceptible de nous apprendre. Cette folie du pouvoir est structurelle. Elle est indépendante d'une folie individuelle. Elle saisit des gens sans pathologie particulière dès lors qu'ils sont placés dans une certaine situation, dans un certain rôle. Et c'est précisément ce caractère structurel qui rend cette folie du pouvoir particulièrement révélatrice. Endémique également, en tout cas depuis quelques siècles, non pas la folie du pouvoir, mais la folie sur le pouvoir. C'est un objet dont il est très difficile dans nos sociétés de parler rationnellement. Très difficile. Cette folie ordinaire a son expression la plus commune dans la force d'un thème qui tient une place étonnante dans la vie de nos sociétés, qui est la croyance au complot. La croyance selon laquelle, derrière le pouvoir apparent, un peu faiblard, un peu mou, un peu vaseux dans ses directions, s'en cache un vrai, qui n'a rien à voir avec les ramolos au pouvoir qui ne sont que ses marionnettes. Un pouvoir caché dont les manigances mènent le monde. Alors il y a une systématisation de cette folie qui conduit à l'identification des titulaires de ce pouvoir et des buts qu'ils poursuivent. Mais dans l'ordinaire des jours, c'est de cette façon que se manifeste la croyance. C'est l'idée qu'il y a forcément quelque chose de caché sous ce qu'on voit. Ils sont nuls, mais c'est exprès. Parce que derrière, les tireurs de ficelles, eux, sont excellents. Ils savent où ils vont. Nous, on ne le sait pas, mais il y a sûrement des gens qui le savent. Il suffit donc de creuser un peu pour trouver. De nouveau, bien sûr, nous retrouvons là le lien avec la paranoïa. Mais cette paranoïa de basse intensité, si je puis dire, n'a rien de personnel, ni de pathologique, au sens individuel. Le vrai paranoïaque, lui, est au centre de son délire. C'est de lui qu'il s'agit, c'est de ses ennemis propres qu'il est question. Rien de pareil ici. C'est juste une sorte d'explication désintéressée du cours des choses, où l'on est personnellement concerné, mais de façon lointaine, indirecte, au même titre que l'ensemble de ses concitoyens. Il n'empêche que l'on est concerné de façon paranoïaque néanmoins. Une paranoïa structurelle, de nouveau, liée aux représentations passionnelles que se font spontanément les individus du pouvoir dans la vie collective. Derrière tout pouvoir, il y a un arrière-fond d'autres pouvoirs. On pourrait, bien sûr, évoquer beaucoup d'autres phénomènes de cette qui mettent sur la piste de ce qu'il y a de puissant psychiquement dans la figure du pouvoir. Je pense par exemple tout simplement à un phénomène là aussi mentionné, évoqué, mais jamais abordé sérieusement, qui est l'érotisme du pouvoir. Il y a un lien très fort, mobilisateur, entre libido et pouvoir, qui joue dans les deux sens. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui est mobilisé là? Nous n'en savons rien. Pour conclure, je vais revenir à quelques considérations plus théoriques sur le caractère constitutif de cette dimension du pouvoir. Je vous le disais, on peut résumer le point dans une simple proposition. Pas de société sans pouvoir, parce que pas de société sans pouvoir sur elle-même. Ce pouvoir déterminant la capacité subjective de ses membres. En d'autres termes, le pouvoir fait partie de ces quelques données anthropogènes qui font l'humanité, qui font de nous ce que nous sommes. la plus patente de ces données, nous en avons parlé, est le langage. Le maniement des signes avec ces corrélats qui tiennent semblablement au maniement de l'abstraction. Car le signe, dans sa définition minimale, ce que Saussure appelait l'arbitraire du signe, c'est l'abstraction. Le signe est distinct de ce qu'il représente. Il implique une différenciation d'avec. Il est d'ailleurs polyvalent. Le même signifiant peut porter plusieurs significations. Les corrélats du langage, c'est aussi, par exemple, le maniement de l'outil. L'outil dans son véritable sens. Un outil, c'est une fonction abstraite. Si vous prenez un caillou pour frapper votre semblable ou un objet, c'est un caillou. Si vous utilisez un marteau, c'est un objet qui est identifié par sa fonction abstraite de frapper. C'est ça le sceau humain. Les singes utilisent des bâtons, des pierres. Évidemment, ils n'utilisent pas des outils façonnés pour concrétiser une fonction abstraite. Couper, tailler, lancer, jeter, tout ce qu'on voudra. L'abstraction qui est dans le langage, c'est l'usage de règles qui valent uniformément pour tout le monde, ou de façon différenciée, mais qui prévoient le cadre dans lequel elles s'appliquent, et qui sont là pour régler le rapport des individus à leurs propres besoins, satisfactions, en établissant un temps dans lequel se déroulent leurs actions. Mais aussi bien l'abstraction incorporée dans le langage, l'abstraction pratique, pourrait-on dire, non pas l'abstraction sous forme de théorèmes abstraits, mais sous forme de fonctions opératoires. L'abstraction du langage, c'est la capacité pour les individus parlants de se regarder comme des personnes. Une personne, c'est un rôle social équivalent à d'autres rôles sociaux. Parler, c'est impliquer d'autres locuteurs interchangeable avec sa propre parole dans un circuit d'échange. Non, point commun. Je vais très vite, je me contente d'évoquer ces questions cruciales pour faire ressortir justement cette dimension qui aujourd'hui me paraît en train d'être escamotée par le naturalisme évolutionniste qui envahit intellectuellement nos sociétés et qui... Le vrai combat intellectuel, le fond, aujourd'hui, il est là. Il faudrait évidemment en dire beaucoup plus. Eh bien, cette donnée anthropogène centrale, sur laquelle on peut assez facilement s'accorder, elle a beaucoup d'arguments rationnels pour elle, je n'ai pas besoin d'y entrer, cette donnée va de pair avec deux autres, qui se présentent, elles, comme des anomalies. Ce qui fait toute la difficulté de les reconnaître, de les faire admettre. Qui ont d'ailleurs à voir avec le fait de parler, mais dans un sens qui est loin d'être évident. Et qui ont à voir, ô combien, avec le fait que nous avons un inconscient. Que nous sommes déterminés par quelque chose comme un inconscient. La première de ces données vous est familière, c'est le primat très étrange de la sexualité dans la constitution subjective. La seconde de ces données n'est pas familière aux psychanalystes, elle. Mais il faut la faire entrer en ligne de compte, c'est précisément l'existence du pouvoir dans l'existence collective. Existence qui est inscrite dans l'organisation psychique. Existence qui est le point où notre organisation psychique s'articule du dedans à la dimension collective. On pourrait dire d'ailleurs que nous avons là deux pôles, avec le sexuel, la sexualité, le pouvoir. Le sexuel, ce dont nous sommes intérieurement séparés, ce qui nous meut sans que nous puissions le rejoindre. Le pouvoir, ce qui sépare la société d'elle-même, ce qui lui donne prise sur elle-même, mais en la coupant de ce qui la commande. De cette inscription psychique du pouvoir, la théorie freudienne a eu une préscience. Elle en a identifié un aspect, au moins, dans la seconde topique, avec l'introduction de la notion de surmoi, dans un contexte politique, au passage, assez bien déterminé. C'était le moment ou jamais de se poser cette question du pouvoir. Et visiblement, elle était au travail dans l'histoire environnante. Qu'est-ce que le surmoi, au moins, une première approche de cette inscription psychique de la séparation du pouvoir sous la forme d'une loi interdictrice qui est en même temps la condition du désir. Cette inscription psychique a son répondant dans la division du désir. Je reviens là à l'ambivalence que Charles Mellement évoquait la dernière fois, et c'est bien volontiers que je lui céderai la parole pour prolonger son propos de la dernière fois, ambivalence entre, à un niveau tout à fait descriptif simple, aspiration à la liberté et aspiration à un pouvoir fort. C'est, je crois, Pontalis qui, dans un texte littéraire, mais comme c'est là quelquefois que les propos psychanalytiques vont le plus loin, puisqu'on ne se sent pas censuré par le besoin de s'inscrire dans une quelconque orthodoxie, disait, je n'ai pas retrouvé le passage, mais ça ne doit pas être bien difficile à faire, qu'il était frappé par le fait que, dans son expérience de psychanalyste, ce qui revenait, ce qui le saisissait, c'était ce qu'il appelait quelque chose comme le désir sanguinaire de dictature qui parlait au travers de l'inconscient de ses patients. Et je crois qu'il disait là quelque chose de très fort. Il y a ambivalence entre d'un côté la demande envers le pouvoir, demande de reconnaissance, demande d'amour, et rejet, refus, résistance, contestation, recherche d'une délivrance par rapport à lui. Existe ambivalence entre le sentiment de ne, la passion enracinée de ne pouvoir exister que contre le pouvoir. Si le pouvoir existe, je ne suis rien. Il est là pour m'anéantir. Mais d'autre part, passion de n'exister que par le pouvoir, dans la soumission à un pouvoir au travers duquel participer justement de ce pouvoir de la société sur elle-même. Au fond, il me semble que nous retrouvons là, au-delà du terrain psychanalytique, une proposition théorique qui m'a toujours semblé particulièrement géniale, du vieux Kant, qui parle de l'insociable sociabilité caractéristique des êtres humains. C'est notre appartenance qui nous individue, en même temps qu'elle met en péril notre individuation, de sorte que nous ne cessons d'osciller entre une aspiration à la désappartenance et une passion de l'appartenance, qui commence au banal conformisme, et qui finit en soumission active à un pouvoir oppresseur. Comme si ce pouvoir oppresseur contenait le secret de notre liberté. Pourquoi les hommes se battent-ils pour la servitude comme s'il s'agissait de leur liberté ? Vous avez reconnu la formule de Spinoza qui faisait écho au propos de la Boétie sur la servitude volontaire. Je crois que c'est dans ces eaux-là que la théorie psychanalytique peut s'aventurer pour nous éclairer sur l'un des plus profonds mystères de notre existence individuelle et collective. Vous me pardonnerez cet excursus sur un terrain qui n'est pas le mien, qui avait une finalité provocatrice. Nous, quand je prendrai la parole pour la prochaine fois, après ces réflexions préliminaires, je reviendrai à nos deux autres questions. Dans le bon ordre d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui s'est passé avec le pouvoir dans les derniers siècles et qui nous met aujourd'hui dans une situation inédite, qui est en même temps une situation qui a la vertu, comme souvent les période de grand danger, de nous permettre de mieux comprendre ce qu'est cet objet entre tous, obscur et énigmatique au sens plein du terme.
Merci, merci beaucoup, Marcel Gaucher, d'avoir de façon si précise tracer les frontières de ce que permet une élaboration informée et réfléchie sur cette question du pouvoir. Et je dirais cet abord que vous voulez bien faire ici est pour nous très instructif. Je dirais d'abord, si vous le permettez, que ce qui différencie le traitement du pouvoir dans les sociétés animales et la nôtre, c'est que dans les sociétés animales, ils choisissent toujours le meilleur.
Le plus balèze, en tout cas.
quel est celui que nous choisissons? Alors nous choisissons assurément, on va dire, le plus accommodant. La question étant de savoir, effectivement, comme vous l'évoquiez là à l'instant, quel est cet accommodement que nous souhaitons, et le paradoxe que vous évoquiez si bien avec Spinoza. Il y a, comment dirais-je, il est certain que l'expérience psychanalytique est intimement mêlée à la question de ce qui pour un sujet fait pouvoir, puisque il arrive, lorsqu'il arrive, prisonnier ligoté, traumatisé, martelé, par justement tous les pouvoirs qui ont pu s'exercer à l'occasion de son parcours, avec pour résultat final que celui qui s'exerce chez lui s'avère plutôt malheureux. Donc, il n'est pas illégitime de faire remarquer que la question du pouvoir est d'une certaine façon centrale dans la clinique. Cette question, je crois, s'illustre aussi, après tout, assez bien, à l'occasion de ce qu'a été ou de ce qu'est l'existence des sociétés psychanalytiques, de ce qui s'est joué autour de Freud, par exemple. Freud a laissé l'idée auprès de ceux qui l'ont connu ou qui en ont parlé d'un homme autoritaire. Ce qui pourrait paraître évidemment assez étrange de la part de celui qui était supposé conduire ses adeptes vers ce qui était le maximum de liberté subjective possible. Mais en tout cas, il a été dénoncé comme dogmatique et autoritaire, ce qui pourrait, je crois, s'interpréter comme le fait que la dernière instance de pouvoir qu'il proposait à ses patients, c'était de se soumettre à cette instance, qu'il s'agirait de respecter si l'on veut accomplir son désir, autrement dit l'instance qui commande le désir, que c'était là d'une certaine façon la dernière instance dont le pouvoir était à respecter, quitte à susciter de la part de ses élèves et de son entourage la dénonciation qui a été très vite soulevée en particulier par Adler, avec sa théorie de la volonté de puissance, et qui était que ce pouvoir-là, c'est-à-dire celui qui commande le désir, ben justement, il n'est pas satisfaisant. Et donc, ça ne peut pas être le bon. Alors, voilà donc quelqu'un qui prétend, en fin de compte, vous amener, je dirais, au respect de ce qui serait le pouvoir dont les conséquences pourraient être les plus favorables pour le sentiment de pour le bien-être psychique, physique, voire social. Et puis, non, c'est pas le bon, parce que justement, cet accomplissement du désir reste marqué par une insatisfaction que ce pouvoir ne corrige pas. Et on peut assez facilement, je crois, à partir de la dénonciation de ce déficit, voir de quelle manière sont venues s'organiser, en quelque sorte, des tentatives de remédier à la disqualification de ce que Freud semblait vouloir amener comme finalement le moins mauvais pouvoir que vous puissiez respecter, c'est encore celui-là. Quitte à vous livrer à des négociations avec le surmoi, avec le ça, avec le moi, enfin. Mais c'est encore celui-là. Sauf que précisément, il en venait à illustrer ce qui reste notre pathologie à l'endroit du pouvoir, c'est-à-dire la volonté, je dirais, de l'autorisation d'être divisé par rapport à lui, qu'il en laisse la liberté d'être divisé, c'est-à-dire d'en penser pas moins. Mais aussi cette exigence qu'il puisse être un pouvoir totalitaire, c'est-à-dire enfin réussi, ne serait-ce que sur le plan du narcissisme, puisque ceux qui s'autorisent dans une société d'un pouvoir totalitaire, par l'uniformité même que celui-ci réalise, et y compris l'abolition de la distinction entre les sexes, qui n'a pas attendu l'évolution de nos mœurs pour se manifester, et bien que tout ceci, je dirais, reste marqué parmi les accommodements que nous pouvons souhaiter vis-à-vis du pouvoir, reste marqué d'une appétence qui, je crois, est assez explicite. Ce que, si la psychanalyse là-dessus apporte quelque chose, c'est sûrement de montrer que, à la place où s'exerce le pouvoir, peuvent venir non seulement cette instance, je dirais, une bien connue et qui est représentative du pouvoir, mais peut légitimement venir un objet. Après tout, la perversion a ses charmes. Peut venir la blessure en tant que telle, je veux dire, le fait que nous puissions être commandés par le souci de charité, de générosité. Que ça puisse être pour nous commandement. Et je crois que l'on rencontre immanquablement dans l'évolution de l'enfant ce qui peut en être de son interrogation sur savoir ce qui dans son foyer mérite de faire commandement. Si c'est, l'arbitraire de la dévolution qui est faite au père, ou bien si c'est bien, je dirais, le défaut douloureux qui marque la mère. Et qu'est-ce qui doit commander en dernière sorte ? Il y a donc là une problématique qui n'est pas quelconque. Et puis, il y a aussi, je suis en train de réciter une leçon là, il y en a qui l'entendent dans la salle, mais j'y peux rien. Moi aussi, j'obéis comme ça à ce qui justement va venir maintenant, c'est-à-dire le savoir comme faisant autorité. Et comme nous le savons, la volonté très précoce de nos géniaux philosophes de vouloir instruire le tyran. Un tyran instruit, qu'est-ce qu'on pourrait gagner?
On
n'en
entend pas.
Tant mieux. Mais je crois que ce qui est peut-être ce que je retiens peut-être de plus significatif et d'important dans ce que vous nous évoquez, c'est que ce que la théorie analytique, déjà peut-être un peu avec Freud, mais beaucoup avec Lacan, permet de préciser, c'est que l'instance représentative du pouvoir est à l'intersection entre ce qui est l'organisation subjective et ce qui est l'organisation du citoyen. Est à l'intersection. Je veux dire que ce ne sont pas deux pouvoirs hétérogènes, c'est le même qui est à l'œuvre, je dirais, et qui fait le passage de la vie familiale à la vie sociale, je dirais, dans les meilleurs des cas, sans trop de problèmes. Sauf que la rébellion intrafamiliale peut évidemment susciter des vocations trublionesque dans la vie sociale, c'est bien normal, ça bat de soi, etc. Je veux dire, de ce côté-là, c'est la même. Et puisque vous avez bien voulu évoquer la question, l'importance de la détermination que nous subissons du fait d'être pris par le langage, c'est bien évidemment cette instance qui se trouve assurer pour nous l'effet de maîtrise qu'a sur nous le langage. Et après tout, dans le paradoxe, Lacan avait une formule qui me revient, j'ai revu en vous écoutant, c'est que finalement il n'y a jamais de maître absolu que du langage. Et cette idée qu'il y aurait effectivement un langage qui serait le bon, le vrai, le juste et celui du maître, du même coup. Et que, enfin, je ne vais pas m'engager sur le terrain, je dirais, effectivement, de toutes les dissidences que, aussi bien la parole que l'écriture, va exercer avec une certaine délectation pour venir contrarier ce pouvoir, ce langage académique. Mais il existe partout. C'est quand même étrange qu'on s'impose. De façon fort laïque, on s'impose néanmoins un langage dans une langue donnée et qui serait la bonne. C'est la bonne en quoi ? En quoi est-ce la bonne ? En quoi est-ce la vraie ? En quoi est-ce la juste, la correcte ? Donc sur ce point, Ce qui ressurgit, à mon sens, et qui se dégage, pour moi, en tout cas parfaitement, de ce que vous avez bien voulu jusque-là évoquer pour nous, y a-t-il moyen aujourd'hui de parler de cette pathologie que nous avons dans notre rapport au pouvoir ? On pourrait dire finalement que nous sommes tous des malades du pouvoir. On pourrait le dire. Aussi bien, je dirais, à l'intérieur du groupe familial, de la cellule familiale, que du passage dans la vie sociale. Donc, est-il aujourd'hui possible d'avoir enfin une élaboration qui, là-dessus, est un rôle responsable. Est-ce possible ? Est-il possible là-dessus de reprendre les risques, par exemple, qu'a couru Freud, et de venir témoigner que, oui, dans la mesure où le pouvoir est définitivement pour nous représentatif, qu'on le veuille ou pas, je dirais, du sexe, y compris de la division des sexes, que nous ne voulons plus. Et sûrement dans un souci légitime de nous débarrasser de ce pouvoir. Ça, c'est sûr. Il est bien évident que si nous sommes neutres, neutralisés, il est bien évident que du même coup, la référence à tout pouvoir saute. Je trouve qu'il est pouvoir dire, comme je le fais là, cette formule pourtant simple, il me semble que c'est tellement bizarre. Mais cependant, on voit bien la tendance venir. L'enfant aujourd'hui qui pose des problèmes par sa violence, puisque c'est devenu un fait de société, on voit bien de quelle manière le défaut d'une rencontre de l'autorité dans la cellule familiale l'amène inéluctablement à l'échelle sociale de pouvoir agir sans restriction aucune dans sa relation semblable. Je vois bien. Donc, pouvons-nous sortir de là d'une manière qui ne reprenne pas, je dirais, nos tentatives ordinaires, dont on sait qu'elles n'ont pas été heureuses. Malheureusement, sans doute, mais ça c'est clair. Et donc, pouvons-nous avoir là-dessus, enfin, une relation qui soit moins passionnelle? J'ai évoqué tout à l'heure l'histoire du groupe analytique autour de Freud. Et on retrouve toutes ces figures, c'est-à-dire par exemple Ferenczi, le meilleur élève de Freud, et qui est évidemment, pour lui, ce qui devait être en place de commandement, c'était la blessure, aussi bien individuelle que sociale, bien sûr. Adler, je viens d'en parler. Nous avons aujourd'hui, dans le champ de la psychopathologie, puisque c'est le nôtre, nous avons cette théorie comportementaliste qui est quoi? Ça n'est rien d'autre que l'exercice sur un individu de l'injonction. On va commander ce qu'il en est de ses symptômes, de sa motricité. Sa pensée, on s'en fout. Ce qu'il peut en penser, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a le corps, il y a du fait des mauvaises mises en place des circuits, il y a le fait que ce corps ne répond pas de façon satisfaisante, on va par l'injonction. Ça ne soulève aucun problème, je dirais, philosophique. Aucun. Au contraire, ça marche. Enfin, c'est scientifique. Et nous sommes donc aussi, je dirais, dans le champ thérapeutique, en présence de manifestations qui traduisent bien ce qu'il en est toujours de l'idée de ce qui pourrait être une domination contrôlée et parfaite du corps, non pas être vivre en accord avec lui, si j'ose dire, mais on va enfin le commander comme il faut et pour son bien. Bon, ce qui est une vieille idée éducative, après tout. Avant que, et pour vous laisser le temps, si vous le voulez bien, de répondre à ces quelques remarques, voilà ce que, de mon côté, je pourrais évoquer, si ce n'est pour dire qu'autour de Lacan, ça s'est passé de la même façon qu'autour de Freud. Exactement de la même façon. Avec des stéréotypies, je veux dire, il n'y a aucune innovation, il n'y a pas d'innovation. C'est fabuleux quand même de penser ça, que ce qui s'est déroulé il y a 2500 ans, nous le répétons, mais de façon... comme si c'était fossilisé. Il y a un problème là.
Il y a un problème. Mais un problème qui n'est pas insurmontable ou insoluble, même s'il faut être très patient. Nous n'avons pas le programme pour 2017, puisqu'on y pense déjà. Mais en tout cas, du point de vue du programme intellectuel, je crois que celui-là est assez clair. Et je reprends très volontiers votre formule, en lui donnant peut-être un sens plus optimiste que l'interrogation que j'ai sentie assez réservée dans votre manière de la formuler. Vous aimeriez bien, mais vous avez des doutes. Sommes-nous capables, disons, de davantage de lucidité à l'égard des ressorts subjectifs, oui, du pouvoir?
Oui.
c'est effectivement la difficulté, je dirais, où se trouve aujourd'hui le fonctionnement de nos sociétés. C'est la question. J'y reviendrai dans une séance prochaine, mais nous avons trouvé depuis toute l'époque moderne, des subterfuges pour éviter cette question, en la faisant dépendante d'autres questions. L'exploitation économique, supprimons l'exploitation économique, il n'y aura plus de problème de pouvoir. Supposons qu'on arrive, c'est une expérience de pensée, personne n'y est arrivé, mais supposons qu'on supprime l'exploitation économique, alors là, ce serait pire que tout. On n'aurait que le champ clos des confrontations de pouvoir. Donc, je crois que pour nous sommes, la situation inédite que j'évoquais, c'est qui nous donne peut-être des chances. C'est que, par un processus qu'il faut essayer de comprendre et qui ne l'est pas, qui n'est pas facile à comprendre, le pouvoir est en train de nous échapper. Nous avons de moins en moins de pouvoir. Il y a un bon livre récent, très empirique, c'est un livre de politologie qui s'appelle « La fin du pouvoir » et qui apporte de bons arguments pour expliquer justement l'espèce d'incapacitation où se trouve quasi systématiquement par la logique du fonctionnement de nos sociétés toute espèce de pouvoir, le pouvoir politique, mais les pouvoirs tels qu'ils existent dans la société en général. Cette situation dont on peut essayer de cerner les ressorts, nous donne une chance, me semble-t-il, d'accéder un peu mieux à cette lucidité dont nous avons besoin. C'est une possibilité qui s'ouvre avec le fait que un rapport naïf au pouvoir ne va plus nous être permis. Ça ne fait que commencer, mais on ne va pas tarder, je crois, à voir les développements intéressants de cette situation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a, comme je le disais au départ, un pouvoir radical? Qu'est-ce que devient l'humanité dans une situation de ce genre? Ça va peut-être nous permettre, ou plus exactement nous contraindre, ce qui est quand même mieux, parce que quand on nous le permet, nous n'utilisons pas cette possibilité. Nous disons qu'il sera toujours temps après. Alors que quand nous sommes contraints, c'est pas une injonction, mais c'est une obligation qui naît des circonstances objectives, malgré tout, ça a une valeur de stimulus assez opératoire en général. Justement, ne soyons pas naïfs. L'humanité ne résout que les problèmes qu'elle est obligée de se poser. De temps en temps, ça fait l'obligation à des côtés très positifs. Et celui-là, je crois que nous allons y être. C'est probablement... Regardez la scène contemporaine. Le tabou sexuel a sauté. Ça ne veut pas dire que les difficultés subjectives avec la sexualité ont cessé. Ça, c'est une paire de manches. C'est même le contraire, hein, de certains égards. Hein. Mais enfin, le tabou sexuel a sauté, mais il y a un vrai tabou qui demeure. C'est celui qui porte sur l'exercice du pouvoir que vous ne pouvez pas poser. Quand cette question émerge dans une organisation, dans une institution, dans un pays... Dans une démocratie, ce ne peut être que dans une situation de crise aiguë. Il y a une sorte de surgissement qui, en général, est vite balayé par un réaménagement quelconque. Donc, quelles sont, voilà, la question que je voulais lancer aux psychanalystes, quels sont les ressorts psychiques qui sont à l'œuvre là-dedans, sur les ressorts sexuels, depuis le plaisir du nourrisson, l'histoire, la génitalité, etc., nous avons quand même des lumières. On sait un petit peu comment ça se passe, même si il y a encore beaucoup de choses, à mon sens, à comprendre. Mais sur ces ressorts qui sont un psychique très profond, qui sont à l'œuvre dès qu'il est rapport au pouvoir, mais le plus élémentaire soit-il, nous ne savons à peu près rien. Et ça a évidemment des incidences majeures sur le dérèglement constant de la vie sociale qui en fait un lieu de frustration de plus en plus grand à de certains égards. Parce qu'après tout, on pourrait dire, mais on va être délivré du pouvoir, c'est très bien. Justement, cette frustration va tomber. Là non plus. C'est comme le tabou sexuel. Quand il part, l'obsession sexuelle s'installe. C'est curieux, quoi. Il en va de même de ce côté. Le pouvoir est évanescent à de certains égards. Comme vous le disiez, c'est une illustre. La scène politique contemporaine illustre que, à la différence des bonobos, nous ne choisissons pas le meilleur. D'ailleurs, nous n'avons même pas les moyens de repérer ce que serait le meilleur, faute de simplement comprendre ce que c'est que l'exercice du pouvoir. Donc, en fait, le pouvoir, c'est cette activité sociale d'un genre très particulier où celui qui est candidat à l'exercer le définit. Et personne, les autres ne savent pas. Donc, on joue à un jeu dont seuls les candidats connaissent la règle. On est perdant. C'est pas très étonnant. C'est inscrit dans la mécanique. Pouvons-nous, justement, clarifier ce qui est à l'œuvre du point de vue de l'économie subjective dans ce rapport constitutif? Voilà, au fond, ce qui légitime notre modeste entreprise.
Merci beaucoup. Mais écoutez, si vous le voulez, d'abord, avant peut-être de nous quitter, j'introduirai ce par quoi je commencerai peut-être la prochaine fois, c'est-à-dire cette formulation de Saint-Just qui est que cette modification radicale qui a été introduite dans notre rapport au pouvoir politique à partir du moment où la quête du bonheur est devenue un facteur de la politique. Et question qui ne pouvait évidemment aucunement se poser du temps de la royauté, ça ne serait plus à l'idée de personne. D'une société équilibrée, assurément, mais du bonheur de l'individu comme facteur de la politique, ça, je crois que ça introduit pas mal de cette exigence de réalisation du bonheur faite au pouvoir politique. Jusque là, on s'en prenait à qui on pouvait, à Dieu en particulier, mais voilà que ça a pris un tour un peu particulier. Mais en tout cas, j'essaierai, si vous le voulez bien, de poursuivre en tentant de répondre aux questions essentielles. Je répondrai comme je pourrai aux questions essentielles que vous posez.